Parmi les axes également qui occupent la communauté aujourd'hui, dans cette mouvance de robotique développementale, sont des axes qui sont liés au retour à une question clé, hein, qui était à la base de la définition de l'intelligence, si vous vous souvenez au début, qui est la définition de but. Un système intelligent fonctionne et s'articule autour de buts. C'est en tout cas telle que la définition qu'on a proposée. Et la question qui se pose évidemment, c'est dans un système autonome qui se développe à partir de rien, donc qui se construit graduellement de manière développementale, d'où viennent les buts? Alors, et bien sûr, on peut imaginer des buts internes physiologiques, se recharger, s'alimenter, etc. Mais on voit bien que chez l'être humain, en tout cas, et chez beaucoup d'animaux, on ne se limite pas uniquement à ça. Et donc, il y a une dimension supplémentaire qui est assez intrigante, qui est de savoir d'où vient la génération de buts pour un système autonome. Il y a des recherches intéressantes sur ça autour de l'axe de la curiosité, par exemple, avec des recherches de Pierre-Yves Houdayet, Frédéric Kaplan, où en gros on essaye de modéliser, on considère le système comme un système qui passe son temps à essayer de prédire ce qui va arriver. On rejoint la notion de stimulation dont je parlais tout à l'heure, et qui à tout moment va essayer de faire des actions qui auront pour conséquence de décroître le niveau moyen d'erreur de prédiction que le système fait. Donc le système fait des erreurs, il prédit ce qui va se passer juste après. Ce qui l'intéresse, c'est de décroître le taux d'erreur, d'accroître la capacité à apprendre. Vous êtes en mesure d'apprendre des choses, vous êtes en train d'apprendre des choses si vous êtes en train de décroître le niveau d'erreur de prédiction enfin, de votre système. Donc ça va pousser l'agent à se mettre dans des situations dans lesquelles il est en mesure d'apprendre des choses. Donc face à un environnement statique où il ne se passe rien, ou un environnement pour lequel il a déjà tout compris, bah, le niveau moyen d'erreur de prédiction du système va rester stable et il va favoriser des actions qui l'emmèneraient dans des territoires plus inconnus, dans lesquels il va être capable de, à nouveau, faire décroître cette erreur moyenne de prédiction. Alors il y a un accroissement momentanément au moment où il fait ça, mais juste après, il se retrouve dans un état où il va être capable d'apprendre de nouvelles choses, et donc c'est bien. De la même façon, s'il est face à une situation absolument incompréhensible, l'exemple qui est pris, c'est la neige, enfin il n'y en a plus maintenant sur les télévisions, mais une espèce de neige, de signal brouillé sur une télévision, qui donc est totalement incompréhensible, ce qui est totalement aléatoire. Là, l'erreur faite par le système est très élevée, mais comme il n'y a rien à apprendre et qu'on ne peut pas réellement prédire quoi que ce soit sur ce qui va se passer, il reste très élevé. Donc c'est pas non plus très intéressant. Donc le système va s'éloigner également de cette situation. Voilà, donc c'est une façon d'essayer de proposer un moteur pour la génération de buts, où à partir du moment où le système se trouve dans un état où sa capacité à apprendre de nouvelles choses se tarit, eh bien, il va essayer d'explorer autre chose. Il y a une belle expérience qui explore ça, qui a été faite en 2005, qui s'appelle le Playground Experiment, où vous avez un robot qui est un robot Sony Aibo, donc un petit robot chien, qui est placé dans un environnement de bac à sable pour enfants avec des jouets, des balles, des rochers, etc. Et le robot, gouverné par ce principe de la curiosité, explore tour à tour son environnement, le fait que quand il pousse un certain objet, ça fait du bruit, etc., etc., et découvre des modèles. Et ça gouverne vraiment l'ensemble des actions de ce robot. On le voit explorer progressivement son environnement. C'est très intéressant, là aussi, avec le lien avec la psychologie cognitive et le développement de l'enfant. Parmi les recherches actuelles en pointe, hein, sur ces questions dans le domaine de la robotique développementale, au-delà de la curiosité, de la maturation, il y a beaucoup de choses qui sont faites autour du rôle des émotions comme catalyseur, outil de contrôle de l'apprentissage, outil d'interaction évidemment, qui participe donc de la communication, du langage et de la capacité à coopérer. Il y a un certain nombre de conférences qui traitent globalement la robotique développementale, comme la conférence ICDL ou EPIROB, dans une moindre mesure IROS, ICRA, voilà. Tout ça, ce sont des conférences soit génériques de robotique en général, tendance intelligence artificielle, soit très spécialisées sur la robotique développementale. Les chercheurs aujourd'hui travaillent sur de nombreux sujets, ceux que j'ai déjà évoqués. Sur le sujet, par exemple, du langage, au-delà de l'expérience des talking heads, qui vise à ancrer un lexique de mots dans des percepts visuels, on essaie d'aller plus loin dans l'ancrage du langage, c'est-à-dire de s'intéresser à la grammaire, d'essayer d'ancrer les conventions qui sont adoptées par des ensembles d'agents pour représenter le rôle de participants dans une action. Dans les langages humains, vous avez des stratégies autour de sur ça, autour de l'ordre des mots, comme en anglais, ou des prépositions, ou des terminaisons de mots. Ce sont toutes des stratégies qui permettent de distinguer qui est l'agent, l'objet d'une action, et c'est des choses qu'on peut ancrer également par des jeux de langage, par des interactions, et donc monter en complexité dans le type d'éléments de langage qui sont ancrés et qui sont manipulés autour de la grammaire. Voilà, sur la représentation des acteurs, la représentation du temps, la représentation de l'espace. On peut également aller vers, des gens travaillent sur la représentation des buts de l'agent et également des croyances de l'agent et également des buts et des croyances des agents avec lesquels l'agent principal interagit. L'idée, c'est d'avoir un modèle, ce qu'on appelle une theory of mind, un modèle de ce que la personne en face de vous est en train de penser, de croire, de vouloir. Avancer sur ces modèles-là, ça permet d'explorer, autour du langage, des concepts encore plus complexes comme la modalité « je veux »,« je peux », »,« je crois », et d'aller vers des interactions de plus en plus sophistiquées de langage qui nous amènent, alors on peut imaginer, hein, au bout du chemin, qui nous amènent vers des robots qui sont capables réellement d'apprendre une langue, pas une langue très simple de lexique, mais une langue complète, avec toutes les subtilités en termes de représentation du temps, de l'espace, des intentions de l'autre, des désirs, des buts, etc. Et ce qui est intéressant dans cette approche, c'est que ça fournit une sorte de roadmap, hein, de guide, puisque à travers ce qu'on sait de l'apprentissage d'une langue par un enfant, à travers ce qu'on sait de la langue en général, des différents concepts qui apparaissent, on a une sorte de cahier des charges de ce qu'on a à résoudre comme problème dans cette approche de robotique développementale et d'ancrage du langage. Donc ça, c'est assez intéressant parce que c'est pas souvent le cas en intelligence artificielle qu'on soit capable de dire voilà, une fois que j'aurai résolu ce problème, voilà le problème suivant auquel je dois m'attaquer. Donc ça, c'est assez encourageant, on va dire. Parmi les choses qu'on peut essayer d'ancrer aussi, c'est le concept d'affordance qui a été proposé par Gibson en 77, qui est l'idée que chaque objet que vous voyez, vous lui attribuez assez spontanément une possibilité d'interaction. Si je vous présente une tasse avec une anse, vous allez assez spontanément imaginer pouvoir saisir cette anse et vous allez imaginer l'usage que vous pouvez faire de cet objet. C'est ce qu'on appelle l'affordance, c'est-à-dire la capacité, enfin les modalités d'interaction qu'un objet vous propose. Et cette capacité-là, elle est apprise, elle est ancrée, elle n'est pas innée, donc elle est culturellement décidée. Et donc, il y a tout un sujet autour de la capacité à apprendre ces affordances, parce qu'évidemment, ça permet sans doute ensuite de simplifier le problème de l'interaction avec les objets, qui est un problème très dur.